Chapitre 4. Apprentissage. On raconte une histoire à propos du roi vainqueur, le conquérant de l'île qui devint ultérieurement le duché de Bauges. Très peu de temps après avoir annexé les terres de bord du sable, il fit mander la femme qui, ne se fût-il pas emparée de son pays, eût été la reine de bord du sable. Elle se rendit à Castelserre en proie à un grand émoi, redoutant le voyage, mais redoutant plus encore les conséquences qu'auraient à subir les gens de son peuple si elle leur demandait de la cacher. À son arrivée, elle apprit avec un mélange de stupéfaction et de vague dépit que Vainqueur comptait l'employer, non comme servante, mais comme préceptrice pour ses enfants, afin qu'ils apprissent la langue et les coutumes de son pays. Quand elle lui demanda pourquoi il leur faisait enseigner la vie des siens, il répondit: un souverain doit être de tout son peuple, car on ne peut diriger que ce que l'on connaît. Plus tard, elle épousa de son plein gré son fils aîné et prit le nom de reine Bienveillance à son couronnement. Le soleil dans mes yeux me réveilla. Quelqu'un était entré dans ma chambre et avait ouvert mes volets. On avait laissé une cuvette, un linge et une cruche d'eau sur le coffre. Je m'en réjouis. Mais même la toilette ne parvint pas à me ragaillardir. J'étais encore abruti de sommeil, et je me rappelle mon malaise à l'idée qu'on pût pénétrer ainsi dans ma chambre et s'y déplacer sans me réveiller. Comme je l'avais deviné, la fenêtre donnait sur la mer, mais je n'eus guère le temps d'apprécier la vue. Un coup d'œil au soleil m'apprit que j'étais en retard. Je m'habillai à la diable et me précipitai aux écuries sans m'arrêter pour manger. Mais Burick avait peu de temps à m'accorder ce matin. « Remonte, me dit-il. Maîtresse pressée a déjà envoyé Brandt te chercher ici. Elle doit prendre tes mesures pour t'habiller. Tu as intérêt à la rejoindre en vitesse. Elle n'a pas volé son nom, et elle n'appréciera pas que tu chamboules son programme de la matinée. » Revenir au trot sur mes pas réveilla toutes mes courbatures de la veille. Tout inquiet que je fusse à l'idée de rencontrer cette maîtresse pressée et de me faire prendre mes mesures pour des habits dont je n'avais pas besoin, j'en étais convaincu, je fus soulagé de n'avoir pas à remonter à cheval ce matin-là. Après m'être enquis de mon chemin au sortir des cuisines, je trouvai enfin maîtresse pressée dans une pièce un peu au-delà de ma chambre, dans le même couloir. J'hésitai devant la porte, puis jetai un coup d'œil à l'intérieur. Accompagné d'une douce brise marine, le soleil entrait à flot par trois hautes fenêtres. Des paniers de fil et de laine teintés s'empilaient le long d'un mur, tandis que sur une grande étagère, appuyée à un autre, se déployait un arc-en-ciel d'étoffes. Deux jeunes femmes bavardaient au-dessus d'un métier à tisser, et dans un coin, un garçon pas beaucoup plus vieux que moi se balançait au rythme lent d'un rouet. Je ne doutais pas que la femme, dont je ne voyais que le large dos, fût maîtresse pressée. Les deux jeunes bavardes me remarquèrent et s'interrompirent. Maîtresse pressée suivit leur regard, et l'instant d'après, j'étais entre ses griffes. Elle ne perdit pas de temps en présentation ni en explication. En un tournement, je me retrouvai debout sur un tabouret et, en fredonnant, elle me fit pivoter sur moi-même, prit mes mesures, le tout sans la moindre considération pour ma dignité, ni même pour ma qualité d'humain. S'adressant aux jeunes femmes, elle dénigra mes vêtements, observa très calmement que je lui rappelais tout à fait chevalerie enfant et que mes mesures et mon teint se rapprochaient des siens au même âge. Elle leur demanda ensuite leur opinion tout en tenant devant moi divers coupons de tissu. « Celui-ci, dit une des tisseuses, ce bleu flatte son teint sombre. Ça aurait bien été à son père. Encore une chance que Patience ne doive jamais voir cet enfant. Il porte si clairement sur son visage l'empreinte de chevalerie que son orgueil ne s'en serait jamais relevé. » Et c'est ainsi que, debout, drapé de lainage, j'appris ce que tout le monde à Castelserre savait à part moi. Les tisseuses se racontèrent avec force détail l'arrivée de la rumeur de mon existence à la forteresse et aux oreilles de Patience, bien avant que mon père pût la lui révéler lui-même, et la profonde angoisse qu'elle en avait conçue. Car Patience n'avait pas d'enfant, et, bien que chevalerie n'eût jamais eu un mot pour lui jeter la pierre, chacun imaginait bien à quel point il devait être difficile pour l'héritier de la couronne de ne point avoir de fils à qui transmettre un jour le titre. Patience prit mon apparition comme le reproche suprême, et sa santé, déjà vacillante à force de fausses couches, s'effondra en même temps que son âme. Pour son bien, autant que par rectitude de caractère, Chevalerie avait renoncé au trône et ramené son épouse valétudinaire dans les terres et le climat accueillant de sa province d'origine. L'on disait qu'ils y menaient une existence douce et confortable, que la santé de Patience se remettait lentement et que Chevalerie, sensiblement plus posée qu'autrefois, apprenait peu à peu à gérer sa vallée aux vignes abondantes. Il était bien triste que Patience condamna aussi Burick pour l'écart de conduite de son époux, et eut déclaré ne plus pouvoir supporter sa vue. Car, entre sa blessure à la jambe et l'abandon de Chevalerie, le vieux Burick n'était plus l'homme qu'il avait été. Il y avait eu un temps où les femmes de la forteresse ne pressaient pas le pas en le croisant. Attirer son regard, c'était susciter la jalousie de tout ce qui portait jupon. Mais aujourd'hui, on l'appelait le vieux Burick, alors qu'il était encore dans la force de l'âge. C'était une criante injustice, comme si un serviteur avait son mot à dire sur les actes de son maître. Mais finalement, tout était pour le mieux, conclut la laitisseuse. Après tout, Vérité ne faisait-il pas un roi servant bien meilleur que Chevalerie? Ce dernier était si rigoureusement aristocratique qu'en sa présence, chacun se sentait mesquin et débraillé. Il ne se permettait jamais le moindre écart de justice, et bien qu'il fût trop courtois pour dénigrer ceux qui ne l'imitaient pas, on avait toujours le sentiment que sa conduite parfaite était un reproche muet, adressé aux misérables, dotés d'une discipline plus relâchée. Mais soudain, voilà que le bâtard était arrivé après tant d'années, et, ma foi, c'était bien la preuve qu'il n'avait pas toujours été l'homme qu'il prétendait. Ah, vérité, ça, c'était un homme parmi les hommes, un roi en qui le peuple reconnaissait la royauté. Il n'avait pas peur de monter à cheval, il maniait les armes aux côtés de ses hommes, et s'il lui était arrivé de s'enivrer ou de se montrer chahuteur, eh bien, il le reconnaissait sincèrement, bien digne du nom qu'il portait. Le peuple pouvait comprendre un tel homme et lui obéir. Tout cela, je l'écoutais avidement, sans mot dire, tandis qu'on essayait divers issues sur moi, qu'on les discutait et qu'on les choisissait. Je compris du coup beaucoup mieux pourquoi les enfants de la forteresse me laissaient hors de leur jeu. Si ces femmes envisagèrent que je puisse nourrir des pensées ou des sentiments particuliers sur leur conversation, elles ne le manifestèrent pas. La seule remarque que me fit maîtresse pressée, autant que je m'en souvienne, portait sur le fait que je devais mieux me nettoyer le cou. Après quoi, elle me chassa de la pièce comme un poulet agaçant, et je me retrouvai dans le couloir, en route pour les cuisines dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. L'après-midi, j'eus de nouveau cours avec Odd, et m'exerçai tant et si longtemps que j'eus la conviction que mon bâton avait mystérieusement doublé de poids. Puis la table et le lit. Puis à nouveau le réveil au petit matin et le retour sous la tutelle de Burick. Mon apprentissage dévorait mes journées, et les rares moments libres que je me trouvais étaient engloutis sous les corvées associées à mon enseignement. Travaux de sellerie pour Burick, ou nettoyage et rangement de l'armurerie pour Odd. À la date prévue, je découvris, un après-midi rangé sur mon lit, non pas un, ni deux, mais trois costumes, les bas compris. Deux étaient en tissu très ordinaire, de la teinte marron que la plupart des enfants de mon âge paraissaient porter, mais le troisième était en fin tissu bleu et présentait sur la poitrine une tête de cerf brodée en fil d'argent. Burick et les autres hommes d'armes arboraient un cerf bondissant comme emblème. Je n'avais jamais vu la tête seule que sur le pourpoint de Royal et de Vérité. Je considérais donc le dessin d'un œil émerveillé, mais non sans m'interroger sur la zébrure de fil rouge qui le barrait en diagonale. « Ça veut dire que tu es un bâtard », me répondit abruptement Burick lorsque je le questionnais. « On te reconnaît de sang royal, mais bâtard quand même. C'est tout. C'est simplement une façon rapide de montrer que tu es de sang royal, mais pas de pure lignée. Si ça ne te plaît pas, tu peux changer d'emblème. Je suis sûr que le roi te l'accorderait. Un nom et un écusson à toi. » Un nom?
Bien sûr. C'est une requête assez banale. Les bâtards sont rares dans les maisons nobles, et surtout dans celle du roi, mais pas inconnus.
Sous prétexte de m'enseigner l'art de bien traiter une selle, il m'entraînait dans la sellerie et passait en revue toutes les vieilles pièces de harnachement inutilisées. Entretenir et récupérer les vieux harnais était une des obsessions les plus curieuses de Burick.
« Invente-toi un nom et des armoiries, et ensuite demande au roi. »«
Quel genre de nom ?»«
Je ne sais pas, celui qui te plaira. »«
Ce harnais-ci m'a l'air en mauvais état. On l'a rangé humide, et il s'est piqué. Enfin, on va voir ce qu'on peut en faire. » »«
Je n'aurais pas l'impression que c'est pour de vrai. »«
Quoi ?» Il me tendit une brassée de cuir à l'odeur âcre. Je la pris.
« Un nom que je me donnerais moi-même. Je n'aurais pas l'impression que c'est vraiment le mien. »«
Qu'est-ce que tu comptes faire, alors ?»
Je pris une inspiration.
« C'est le roi qui devrait me nommer.
Ou toi ?»
Je rassemblais mon courage.
« Ou mon père. Tu ne crois pas ?»
Burick fronça les sourcils.
« Tu as des idées drôlement bizarres. Réfléchis-y un peu tout seul. Tu trouveras bien un nom qui te conviendra, fils. »
Fitz, fis-je, ironique, et je vis les mâchoires de Burick se crisper.
Bon, si on remettait ce cuir en état, proposa-t-il d'un ton calme.
Nous transportâmes le travail sur l'établi et nous mîmes au nettoyage.
Ce n'est pas si rare que ça, les bâtards, observai-je. Et dans la ville, leurs parents leur donnent un nom.
Dans la ville, les bâtards ne sont pas si rares, oui,
acquiesça Burick au bout d'un moment.
Les soldats et les marins courent la gueuse. C'est fréquent chez les gens du commun.
Mais pas chez les rois.
Ni chez personne qui ait un tant soit peu de fierté.
Qu'est-ce que tu aurais pensé de moi, quand tu étais plus petit, si j'étais parti le soir courir la prétentaine, ou si j'avais ramené des femmes dans la chambre? Comment est-ce que tu considérerais les femmes maintenant?
Et les hommes?
C'est très bien de tomber amoureux, Fitz, et personne n'interdit un baiser par-ci par-là à un jeune homme ou une jeune femme. Mais j'ai vu comment ça se passe à Terrilleville. Des marchands amènent de jolies gamines, ou des jeunes femmes bien tournées au marché, comme si c'était des poulets ou des pommes de terre. Et les enfants qu'elles finissent par avoir ont peut-être un nom. Mais ils n'ont pas grand-chose d'autre. Et même quand elles se marient, elles n'en conservent pas moins leurs habitudes. Si jamais je tombe sur la femme qu'il me faut, je tiendrai à ce qu'elle sache que je n'en regarderai jamais une autre, et je voudrais avoir l'assurance que tous mes enfants sont de moi. »
Le ton de Burick était presque passionné.
Je levai vers lui des yeux malheureux.
« Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec mon père ?»
Il eut soudain l'air fatigué. « Je ne sais pas, petit. Je ne sais pas. Il était jeune, une vingtaine d'années à peine. Il était loin de chez lui et il essayait de porter un fardeau bien lourd. Ça n'explique rien. Et ça ne l'excuse pas. Mais c'est tout ce que toi ou moi en saurons jamais. »
Il n'ajouta rien de plus.
Mon existence se poursuivit selon la même routine. Certains soirs, je demeurais en compagnie de Burick, et plus rarement, je restais dans la grande salle lorsque s'y produisait un ménestrel ou un montreur de marionnettes. À de très longs intervalles, je parvenais à me faufiler en ville pour une soirée, que je payais immanquablement le lendemain en tombant de sommeil. Mes après-midi, je l'ai passé automatiquement avec un précepteur ou un maître enseignant. Je finis par comprendre qu'il s'agissait là de cours d'été, et qu'en hiver, je ferais connaissance avec un enseignement centré sur les plumes et les lettres. J'étais plus occupé que je ne l'avais jamais été de toute ma courte vie. Et pourtant, la plupart du temps, malgré ce programme chargé, j'étais seul. La solitude. Elle venait me rejoindre chaque soir alors que j'essayais en vain de trouver un petit coin douillet dans mon grand lit. À l'époque où je couchais dans les quartiers de Burick, au-dessus des écuries, mes nuits étaient brumeuses, mes rêves
mouchetés du contentement confortable et las des animaux bien employés qui bougeaient dans leur sommeil et heurtaient les cloisons en dessous de moi. Les chevaux et les chiens rêvent, comme le sait quiconque, à observer un molosse en train de japper et de tressaillir au cours d'une chasse au pays des songes. Leur rêve était pour moi comme les effluves odorants de la cuisson du bon pain. Mais, désormais, isolé dans une pièce aux murailles de pierre, j'avais tout le temps de m'immerger dans ces cauchemars dévorants, douloureux, qui sont le lot des humains. Disparu le barrage douillet, derrière lequel me protégeaient, disparu mes frères, mes parents que je sentais sous mes pieds. Je restais éveillé dans mon lit à m'interroger sur mon père et ma mère, et sur la facilité avec laquelle ils m'avaient effacé de leur vie. J'entendais les propos que d'autres échangeaient devant moi sans y prendre garde, et j'interprétais leurs commentaires à ma propre façon, terrifiante. Je me demandais ce qu'il allait advenir de moi quand je serais grand et le roi subtil décédé. Parfois aussi, je me demandais si je manquais à Molly Brisbif et à Kerry, ou bien s'ils avaient accepté ma soudaine disparition avec autant d'aisance qu'ils avaient accepté mon arrivée. Mais c'était la solitude dont je souffrais le plus. Car, dans toute l'immense forteresse, il n'était personne que je perçoive comme un ami. Personne, à part les animaux avec lesquels Burick m'avait interdit d'avoir la moindre intimité. Un soir, je m'étais couché, éreinté. Mais le sommeil ne m'avait emporté, bien à contre-cœur, qu'après que mes inquiétudes m'eurent longuement tourmenté. La lumière me réveilla, mais je décelai aussitôt une anomalie. Je n'avais pas dormi assez longtemps, et la lumière était d'un jaune vacillant, très différent de l'éclat blanc du soleil qui se déversait habituellement par ma fenêtre. J'émergeai de mauvaise grâce et ouvris les yeux. Il se tenait au pied de mon lit, une lampe à la main. En soi, l'objet constituait déjà une rareté à Castelserre, où les bougies étaient plus courantes. Mais ce ne fut pas seulement la lueur jaunâtre de la lampe qui retint mon attention. L'homme en lui-même était étrange. Sa robe avait la couleur de la laine brute qui a été lavée, mais par intermittence et pas récemment. Ses cheveux et sa barbe étaient à peu près dans les mêmes tons et leur aspect hirsute donnait la même impression de négligence. Malgré la couleur de sa chevelure, je fus incapable de lui donner un âge. Il y a certaines véroles qui marquent leur passage, mais je n'avais jamais vu de visage aussi grêlé que celui-là, couvert de dizaines et de dizaines de minuscules cicatrices rondes, d'un rose et d'un rouge agressif, telles de petites brûlures, sur une peau livide, même dans l'éclat jaune de la lampe. Il avait des mains osseuses aux tendons saillants, recouvertes d'une peau blanche qui ressemblait à du parchemin. Il me dévisagea, et malgré la piètre lumière de la lampe, je vis qu'il avait les yeux verts, les plus perçants que j'eusse jamais observé. On eût dit ceux d'un chat lorsqu'il chasse, et son regard exprimait le même mélange de plaisir et de férocité. Je ramenai ma courte pointe jusque sous mon menton.
« Tu es réveillé, » dit-il. « Tant mieux.
Lève-toi et suis-moi. » Il fit brusquement demi-tour et s'éloigna de la porte vers un angle de ma chambre obscurci d'ombre entre l'âtre et le mur. Il me jeta un coup d'œil et leva plus haut sa lampe.
« Dépêche-toi, mon garçon, »
fit-il d'un ton irrité, en faisant sonner contre le montant de mon lit le bâton sur lequel il s'appuyait. Je m'extirpai de mes draps et grimaçai au contact du sol froid sous mes pieds nus. Je voulus prendre mes habits et mes chaussures, mais il ne m'attendait pas. Il regarda une fois par-dessus son épaule pour voir ce qui me retardait, et son coup d'œil perçant suffit à me faire lâcher mes vêtements en tremblant. Je le suivis donc sans un mot, en chemise de nuit, sans pouvoir m'expliquer pourquoi, sauf qu'il me l'avait ordonné. À sa suite, j'arrivai devant une porte qui n'avait jamais existé à cet endroit, puis montai un étroit escalier en colimaçon, seulement éclairé par la lampe qu'il tenait au-dessus de sa tête. Je me trouvais dans son ombre portée, si bien que je tâtonnais du pied dans des ténèbres mouvantes pour ne pas rater les marches. Elles étaient froides, usées, lisses et remarquablement régulières. Et elles montaient et montaient sans cesse, au point que j'eus l'impression, au bout d'un moment, d'avoir dépassé la plus haute tour que posséda la forteresse. Un courant d'air glacé s'élevait le long de l'escalier et s'infiltrait par le bas de ma chemise. Mais ce n'était pas seulement à cause du froid que je me recroquevillais. L'ascension continua, et enfin mon guide poussa une porte qui, pour être massive, n'en pivota pas moins sans bruit et sans difficulté. Nous pénétrâmes dans une pièce. Une chaude lumière tombait de plusieurs lampes suspendues par de fines chaînes à un plafond invisible. La pièce était vaste, facilement 3 fois plus que la mienne. Une de ses extrémités m'attira tout de suite, dominée par un énorme lit de bois doté d'un matelas de plumes et de coussins épais. Des tapis se chevauchaient sur le sol, entremêlant leurs rouges écarlates, leurs verts vifs et leurs bleus profonds ou pastels. Sur une table au bois couleur de miel sauvage, trônait un saladier rempli de fruits si parfaitement mûrs que je sentis leur parfum de là où je me trouvais. Des grimoires et des rouleaux gisaient un peu partout, comme si leur rareté ne présentait aucun intérêt. 3 des murs étaient tendus de tapisseries représentant un paysage vallonné avec, au loin, des piémonts boisés. Je voulus m'approcher, mais « Par ici !» dit mon guide, sans s'arrêter, et il me conduisit à l'autre bout de la chambre. Là, le spectacle était différent. Une table, dont une plaque de pierre formait le plateau, occupait la scène. La surface en était fort roussie et tachée, et divers instruments y étaient posés, récipients, ustensiles, balances, mortiers, pilons, et bien d'autres dont j'ignorais le nom. Une fine couche de poussière s'étendait sur la plupart, comme si certains projets s'étaient vus abandonnés à mi-chemin, des mois, voire des années plus tôt. Derrière la table, une étagère abritait une pagaille de rouleaux, certains bordés de bleu ou de dorure. Il se dégageait de la pièce une odeur à la fois piquante et aromatique. Des paquets d'herbes séchaient sur une autre étagère. J'entendis un bruissement et aperçus un vague mouvement dans un angle éloigné, mais l'homme ne me laissa pas le loisir de pousser mes recherches. La cheminée qui aurait dû réchauffer la partie de la chambre où nous nous trouvions béait, noire et glacée. Les cendres qu'elle contenait semblaient humides et mortes. Cessant d'examiner la chambre, je regardai mon guide. Mon air effaré parut le surprendre. Il détourna les yeux pour les promener lentement sur la chambre. Après qu'il l'eut étudié un moment, je perçus en lui un agacement gêné.
« C'est un peu en désordre. Plus qu'en désordre, même. Mais baste, ça fait déjà un moment. Et même un bon moment. Enfin, tout ça se réglera bientôt. Mais d'abord, les présentations.
Il fait un peu frisquet pour se balader avec seulement une chemise de nuit sur le dos, j'imagine.
Par ici, mon garçon. »
Je le suivis à l'autre bout de la salle, plus accueillant. Il prit place dans un fauteuil en bois délabré, drapé de couverture. Quant à moi, j'enfonçais avec délice mes orteils nus dans les poils d'un tapis de laine. Je restais debout devant lui, cependant que ses yeux de fauve me parcouraient de la tête aux pieds. Le silence se prolongea quelques minutes. Enfin, il parla.
« Tout d'abord, permets-moi de te présenter à toi-même. Tes origines sont visibles au premier coup d'œil. Subtil a préféré les reconnaître, car aucun démenti de sa part n'aurait convaincu qui que ce soit. Il se tut un instant et sourit, comme amusé. Dommage que Galen refuse de t'apprendre l'art. Il y a des années, on en a restreint l'enseignement de peur d'en faire un instrument trop couramment employé. Je parie que si le vieux Galen essayait, il découvrirait que tu es doué. Mais nous n'avons pas le temps de nous inquiéter de ce qui n'arrivera pas. » Il soupira d'un air songeur et resta un moment silencieux. Soudain, il reprit. « Burik t'a appris à la fois à travailler et à obéir, deux domaines dans lesquels il excelle lui-même. Tu n'es pas particulièrement fort, ni rapide, ni brillant. Ne te fais donc pas d'illusions. Mais tu acquerras la ténacité nécessaire pour abattre à l'usure ceux qui seront plus forts, plus rapides ou plus brillants que toi. Et cela représente davantage un danger pour toi que pour les autres.
Mais en ce qui te concerne pour l'instant, ce n'est pas le plus important. Tu es désormais l'homme lige du roi, et tu dois dès maintenant te mettre dans la tête qu'il n'y a rien de plus important pour toi. Il te nourrit, t'habille, veille à ton éducation, et tout ce qu'il demande en retour, pour le moment, c'est ta loyauté. Plus tard, il requerra tes services. Telles sont les conditions selon lesquelles je serai ton professeur, ton état d'homme lige du roi et ton absolue loyauté envers lui. Car si tel n'était pas le cas, il serait trop dangereux de t'enseigner mon art. Il se tut, et pendant un long moment, nous restâmes ainsi, simplement à nous regarder. « Acceptes-tu ? » demanda-t-il enfin. Et ce n'était pas une question de pure forme, c'était la ratification d'un marché. « Oui, » répondis-je, puis voyant qu'il attendait autre chose, « je vous donne ma parole. » « Parfait !» Et il mit toute sa sincérité dans ce mot. « Autre chose à présent. M'as-tu déjà vu ?»« Non. » Je pris soudain conscience de la bizarrerie de la chose, car bien qu'il y eût souvent des étrangers de passage à la forteresse, cet homme y vivait manifestement depuis très longtemps, et je connaissais de vue, sinon de nom, tous les résidents. « Sais-tu qui je suis, mon garçon, et ce que tu fais ici ?» Je fis non de la tête en réponse aux deux questions. « Eh bien, personne d'autre n'en sait rien non plus. Tu devras faire en sorte que cela ne change pas. Qu'il n'y ait pas le moindre doute dans ton esprit là-dessus. Tu ne dois parler à personne de ce que nous faisons ici, ni de ce que tu y apprends. Tu m'as bien compris. » Mon acquiescement muet dut le satisfaire, car il se détendit dans son fauteuil. À travers sa robe de laine, ses mains osseuses agrippèrent ses genoux. « Bien, bien. Allons, tu peux m'appeler Imbre, et moi, je t'appellerai... » Il se tut, mais devant mon mutisme, il acheva lui-même « Mon garçon. » Ce ne sont nos noms ni à l'un ni à l'autre, mais ça ira pour le temps que nous passerons ensemble. Je suis donc Imbre, et je suis un nouveau professeur. Oui. Encore un, que Subtil t'a dégoté. Il lui a fallu du temps pour se rappeler que j'étais ici, et de l'espace pour se donner le courage de me demander ce service. De mon côté, il m'a fallu encore plus longtemps pour accepter de t'enseigner. Mais c'est du passé. Quant à ce que je dois t'apprendre, voyons. Il se leva et s'approcha du feu. Il y plongea le regard, la tête penchée de côté, puis se baissa pour attraper le tisonnier et remua les braises pour activer les flammes. « Il s'agit de t'enseigner le meurtre, plus ou moins. À tuer les gens. L'art raffiné de l'assassinat diplomatique. Ou bien comment rendre aveugle ou sourd. Ou encore comment affaiblir les membres, provoquer une paralysie, une impuissance ou une toux débilitante. » Ou déclencher une sénilité précoce, ou la folie, ou... Mais peu importe. Tout cela, c'est mon métier. Et ce sera le tien, si tu l'acceptes. Sache a priori que je vais t'apprendre à tuer des gens. Pour ton roi. Pas à la façon spectaculaire que t'enseigne Od. Pas sur le champ de bataille, sous les yeux et les acclamations de tes camarades. Non, je vais t'apprendre... la manière furtive, sournoise, polie de tuer les gens. Tu y prendras peut-être goût, ou peut-être pas. Ce n'est pas de mon ressort. Mais ce à quoi je veillerai, c'est que tu sois efficace. Et aussi à une autre chose, car c'est la condition que j'ai posée au roi Subtil, que tu saches ce que tu apprends, ce qui n'était pas mon cas à ton âge. Bien, je dois donc t'enseigner à devenir un assassin. Cela te convient-il, mon garçon ? Je hochai à nouveau la tête, avec hésitation, ne sachant que faire d'autre. Il me décocha un regard perçant. « Tu sais parler, n'est-ce pas ? Tu es déjà bâtard, tu n'es pas muet, en plus, non ? J'avalai ma salive. « Non, messire, je sais parler. »
« Eh bien, parle alors. Ne reste pas là à hocher la tête. Dis-moi ce que tu penses de tout cela, de moi et de ce que je viens de te proposer. »
Invité à parler, je demeurai pourtant muet. Je ne parvenais pas à détacher mes yeux du visage grêlé, des mains parcheminées, et je sentais le regard vert posé sur moi. Ma langue s'agitait dans ma bouche, mais n'y trouvait que silence. Les manières de l'homme m'encourageaient à parler, mais sa figure était plus terrifiante que tout ce que j'avais imaginé.
« Mon garçon !»
Et saisi par son ton doux, je croisai son regard. « Je peux t'apprendre ce que je sais, même si tu me hais, ou même si tu méprises les leçons. Je peux t'enseigner mon art, que cela t'ennuie, que tu sois paresseux ou stupide, mais je ne peux rien faire si tu as peur de me parler. Du moins, si je veux travailler comme je l'entends. Et je ne peux rien t'apprendre si tu ne veux pas l'apprendre.
Mais il faut me le dire. Tu as pris l'habitude de si bien mûrer tes pensées que tu as presque peur de les connaître toi-même. Mais essaye de me les exposer à haute voix. Là, maintenant, tu ne seras pas puni.
Ça ne me plaît pas beaucoup de tuer des gens, dis-je soudain, involontairement.
Ah !
Un silence. Puis, moi non plus, ça ne m'a pas plu quand je me suis trouvé au pied du mur. Et ça ne me plaît toujours pas. Il poussa brusquement un profond soupir. Tu en jugeras au coup par coup. La première fois sera la plus dure, mais pour l'instant, dis-toi que cette heure est encore à bien des années devant toi. Et en attendant, tu as beaucoup à apprendre. » Il eut une hésitation.
« Voilà, mon garçon. Rappelle-toi ce que je vais te dire en toute occasion, pas seulement en ce qui concerne la situation présente. Apprendre n'est jamais mauvais. Même apprendre à tuer n'est pas mauvais. Ni bien, d'ailleurs. C'est seulement un élément d'apprentissage, un savoir que je puis t'enseigner. C'est tout. Pour le présent, penses-tu pouvoir l'apprendre et reporter à plus tard la décision de l'utiliser ou non ? Rude question pour un petit garçon. Pourtant, quelque chose en moi se hérissa et renifla l'idée avec méfiance. Mais, jeune comme je l'étais, je ne vis aucune objection à élever. Et puis, la curiosité m'aiguillonnait. Je peux apprendre. Parfait.
Il sourit, mais il avait les traits tirés, et il ne paraissait pas aussi content qu'il aurait pu l'être.
Alors ça ira, ça ira.
Il jeta un coup d'œil sur la pièce.
Autant nous y mettre tout de suite. Commençons par ranger un peu. Il y a un balai par là. Ah, mais d'abord, enlève ta chemise de nuit et enfile. Tiens, voilà une vieille robe dépenaillée là-bas. Ça ira pour cette fois. Il ne faudrait pas que les lingères se demandent pourquoi tes chemises de nuit sentent le camphre et le liniment, hein? Allez, tu passes le balai pendant que je range quelques bricoles. »
Et ainsi s'écoulèrent les heures suivantes. Je balayais, puis lavais le pavage, sous sa direction. Je dégageais la grande table du bric-à-brac qui l'encombrait. Je retournais les simples qui séchaient sur leur étagère. Je nourris les trois lézards encagés qu'ils gardaient dans un coin, en coupant un vieux morceau de viande collant en petits bouts qu'ils avalèrent tout rond. Je dépoussiérai quantité de marmites et de bols et les rangeai proprement. Pendant ce temps, Imbre travaillait à mes côtés, apparemment très content de m'avoir auprès de lui. Et jacassais comme si nous étions aussi vieux l'un que l'autre, ou aussi jeunes.
« Tu n'as pas encore appris les lettres, ni le calcul ? Bagrache ! Mais que fait-il, ce vieil empoté ?
Ne t'inquiète pas. Je vais veiller à ce qu'on y remédie rapidement.
Tu as le front de ton père, mon garçon, et la même façon de le plisser que lui. On te l'a déjà dit ? Ah, te voilà, rôdeur, bandit que tu es. Quel mauvais coup as-tu encore fait ?
Une belette brune sortit de derrière une tapisserie, et nous fûmes présentés l'un à l'autre. Imbre me permit de lui donner des œufs de caille qui traînaient dans un bol sur la table. Et il éclata de rire en voyant la petite bête, baptisée Rôdeur, qu'émander un supplément en me suivant partout. Il me fit cadeau d'un bracelet de cuivre que je trouvais sous la table, en m'avertissant qu'il risquait de me verdir le poignet, et en me recommandant, si quelqu'un m'interrogeait, de prétendre l'avoir découvert derrière les écuries. Finalement, nous nous arrêtâmes pour manger des friandises au miel et boire du vin chaud épicé. Attablé avec Imbre sur des tapis placés devant la cheminée, je regardais la lueur des flammes danser sur son visage grêlé, en me demandant pourquoi il m'avait paru si effrayant. Il remarqua que je l'observais et un sourire détendit ses traits. « Elle te dit quelque chose, hein, mon garçon ? Ma figure, je veux dire. » Elle ne me disait rien. C'étaient ces horribles cicatrices sur fond de peau crayeuse qui me fascinaient. Je ne comprenais pas de quoi il parlait, et je lui jetais un regard interrogateur. « Ne t'en fais pas pour ça, mon garçon. Ça nous laisse des traces à tous, et tôt ou tard, tu comprendras. Mais pour le moment... » Il se leva, s'étira, découvrant ses mollets blancs et décharnés. « Pour le moment, il est surtout tard, ou tôt, suivant la partie de la journée que tu préfères. Il est temps que tu regagnes ton lit. Allons, tu n'oublies pas qu'il s'agit d'un très grand secret, hein ? Pas seulement cette pièce et moi, mais tout. Les réveils en pleine nuit, les leçons sur la façon de tuer les gens, et tout le reste. « Je n'oublierai pas, » dis-je. Puis, sentant que cela aurait de l'importance pour lui, j'ajoutai « Je vous en donne ma parole. » Il rit dans sa barbe, puis hocha la tête d'un air presque triste. Je remis ma chemise de nuit et il me raccompagna jusque dans ma chambre. Là, il m'éclaira pendant que je grimpais dans mon lit. Après quoi, il tira les couvertures sur moi comme personne ne l'avait fait depuis mon départ des quartiers de Burick. Je crois bien que je m'endormis avant même qu'il eût quitté mon chevet. Il fallut envoyer Brandt me réveiller tant je tardais à me lever. J'émergeais complètement abruti, avec une migraine qui me martelait la tête. Mais dès que Brandt fut sorti, je bondis de mon lit et me précipitai dans le coin de ma chambre. J'essayai de pousser le mur, mais je ne sentis que la pierre glacée sous mes mains, et je ne vis nulle fissure dans le mortier, ni dans les moellons trahissant la présence d'une porte secrète. Pourtant, elle était là, j'en étais convaincu. Pas un instant, je n'envisageais qu'Imbre pût être un rêve. Et même y eussé-je songé, le bracelet en cuivre à mon poignet m'eût prouvé le contraire. Je m'habillai en hâte et fis un crochet par les cuisines pour m'emparer d'un bout de pain et de fromage. Je finissais de les dévorer quand j'arrivai aux écuries. Burick était hors de lui, et il trouva des défauts à tout ce que je faisais, dans ma façon de monter à cheval, comme de m'occuper des écuries. J'ai encore ses réprimandes dans les oreilles. « Ne va pas t'imaginer que, parce que tu as une chambre au château et un écusson sur ton pourpoint, tu peux jouer à ces feignants qui ronflent dans leur lit jusqu'à des pas d'heure et qui ne se lèvent que pour retaper leur jolie coiffure. Pas de ça avec moi. Tu es peut-être un bâtard, mais tu es celui de chevalerie, et je compte bien faire de toi un homme dont il sera fier. » Je m'interrompis dans mon travail, les brosses en l'air. « Tu parles de royal, c'est ça ?» L'insolite de ma question le prit par surprise. « Quoi ? » ?»« Quand tu parles des feignants qui font la grasse matinée, et qui ne s'occupent que de leur coiffure et de leur habit, tu parles de royal, non ?» Burick ouvrit la bouche, puis la referma. Ses pommettes déjà rougies par le vent devinrent cramoisies. « Ni toi, ni moi, » marmonna-t-il enfin, « ne sommes en position de critiquer un prince. Je parlais en général. » Faire la grasse matinée n'est pas le fait d'un homme, et encore moins d'un enfant. Et jamais d'un prince ? Je me tus soudain en me demandant d'où m'était venue cette idée. Et jamais d'un prince ! Acquiesça Burick d'un air sombre. Il était dans le box à côté du mien, occupé à soigner un hongre enflé d'une patte. L'animal tressaillit, et j'entendis Burick grogner en s'efforçant de le maintenir en place. « Ton père ne dormait jamais au-delà de midi sous prétexte qu'il avait bu la veille au soir. »« D'accord, il tenait le vin comme personne, mais c'était aussi affaire de discipline. »« Il n'avait pas non plus d'ordonnance pour le réveiller. »« Il se sortait tout seul du lit, et il attendait la même attitude de la part de ses subordonnés. »« Ça ne le rendait pas toujours populaire,
mais ses soldats le respectaient. Les hommes apprécient ça chez un chef, qu'il exige autant de lui-même que d'eux. Et je vais te dire encore autre chose. Ton père ne perdait pas son temps et son argent à s'attiffer comme un paon. Tiens, un soir, il était jeune alors, c'était avant son mariage avec Dame Patience. Il dînait à l'une des forteresses mineures. On m'avait installé pas très loin de lui, à table. C'était un grand honneur, et j'ai entendu une partie de sa conversation avec la fille du seigneur, placée à côté du roi servant, dans un espoir bien précis. Elle s'était enquis de ce qu'il pensait des émeraudes qu'elle portait, et il lui en avait fait compliment.
« Je me demandais, messire, si vous aimiez les joyaux, car vous n'en portez aucun ce soir. »
Elle a dit en minaudant. Alors, il a répondu d'un air très sérieux que ses joyaux, à lui, étaient beaucoup plus gros et tout aussi brillants que les siens.
« Ah, et où cachez-vous de telles pierres? J'aimerais beaucoup les voir. »
« Eh bien, il a dit, je serai heureux de vous les montrer plus tard dans la soirée quand il fera plus sombre. J'ai vu la gamine rougir, s'imaginant déjà un rendez-vous galant. Et en effet, il l'a invitée plus tard à l'accompagner sur les remparts. Mais il a embarqué aussi la moitié des convives. Là, il a indiqué du doigt les lumières des tours de guet côtières qui brillaient dans le noir. Et il a dit à la gamine qu'il les considérait comme ses joyaux les plus beaux et les plus chers, et qu'il utilisait l'argent des impôts que versait son père à les maintenir toujours brillants. Ensuite, il a montré aux invités les lumières scintillantes des hommes de guet de leur hôte sur les fortifications du château même qui les recevait, et il leur a dit que lorsqu'ils regardaient leur duc, ils devaient considérer ces lumières comme des joyaux qui ornaient son front. C'était un beau compliment qu'il faisait au duc et à la duchesse, et les autres nobles en ont pris bonne note. Cet été-là, les Outréliens ont connu bien peu de succès dans leur raid. C'est ainsi que Chevalerie gouvernait, par l'exemple et par la grâce de ses paroles. Et c'est ainsi que doit faire un vrai prince.
Je ne suis pas un vrai prince. Je suis un bâtard.
Il sonnait bizarrement dans ma bouche, ce mot que j'entendais si souvent et prononçais si rarement.
Burik soupira discrètement. « Sois de ton sang, fils, et ne t'occupe pas de ce que les autres pensent de toi. »
Il y a des moments où j'en ai marre de faire le travail le plus dur.
« Moi aussi. »
Je ruminais cette réponse pendant quelque temps, tout en brossant l'épaule de suie. Burik, toujours accroupi près du Hongre, reprit soudain la parole. « Je ne t'en demande pas plus que je n'en exige de moi-même. Tu sais que c'est vrai. »«
Oui, » répondis-je, surpris qu'il continue sur ce sujet.
« Je veux faire de mon mieux avec toi, c'est tout. »
C'était pour moi une toute nouvelle idée. Au bout d'un moment, je demandais. « Parce que si tu arrivais à rendre Chevalerie fière de moi, de ce que tu as fait de moi, il reviendrait peut-être ?»
Le bruit rythmé des mains de Burik, en train de frictionner la patte du Hongre avec du liniment ralenti, puis cessa brusquement. Mais il resta accroupi et répondit à mi-voix à travers la cloison.
« Non, ce n'est pas ça.
Je crois que rien ne le fera revenir. Et même s'il revenait, sa voix baissa encore. Il ne serait plus ce qu'il était. Ce qu'il était avant, je veux dire. »
C'est ma faute s'il est parti, hein? Les propos des tisseuses résonnèrent dans ma tête. Sans le petit, il serait encore sur les rangs pour être roi.
Burik demeura longtemps sans rien dire. Ce n'est sans doute la faute de personne s'il est né.
Il soupira, et il parut avoir du mal à prononcer les paroles suivantes.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant n'est pas coupable d'être bâtard.
Non. Chevalerie s'est attiré tout seul sa disgrâce, même si ça m'arrache le cœur de le reconnaître.
J'entendis ses mains se remettre au travail sur la patte du cheval.
Et ta disgrâce à toi aussi,
murmurai-je contre l'épaule de suie, sans imaginer qu'il pût m'entendre. Mais un instant plus tard, je perçus un grommellement.
Je ne me débrouille pas trop mal, Fitz. Je ne me débrouille pas trop mal. »
Il acheva sa friction et pénétra dans le box de suie.
« Ta langue s'agite comme celle d'une commère de village aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive ?»
Ce fut mon tour de me taire et de m'interroger. « C'est à cause d'Ambre, » estimai-je enfin. « J'ai rencontré quelqu'un qui veut que je comprenne ce que j'apprends et que j'ai mon mot à en dire. Ça m'a délié la langue, et je peux enfin poser les questions que je traîne depuis des années. Mais comme il m'était impossible d'en parler, je haussai les épaules et répondis en toute sincérité. « Ce sont des trucs qui me tracassent depuis pas mal de temps. »
Burick accepta mon explication avec un grognement. « Bon, si tu poses des questions, c'est déjà une amélioration, même si je ne te promets pas d'y répondre à tous les coups. Ça me fait plaisir de t'entendre parler comme un homme. Je m'inquiète moins que tu te laisses embarquer par les bêtes. »
Avec ces mots, il m'adressa un coup d'œil de mise en garde, puis s'éloigna en boitant. Tout en l'observant qui s'en allait, je me remémorai le premier soir où je l'avais rencontré, et la façon dont il avait, d'un seul regard, réduit au silence une salle pleine d'hommes. Il n'était plus le même. Ce n'était pas sa claudication seule qui avait modifié son comportement et la manière dont les hommes le considéraient. Il restait le maître incontesté des écuries, et personne n'y mettait en doute son autorité. Mais ce n'était plus le bras droit du roi servant. En dehors de ma garde, il n'était plus au service de chevalerie. Pas étonnant qu'il ne pût me voir sans rancœur. Ce bâtard qui avait provoqué sa chute, ce n'était pas lui qui l'avait engendré. Pour la première fois depuis que je le connaissais, ma circonspection vis-à-vis de lui se teinta de pitié.